ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli. Bonjour à vous et bienvenue dans cette émission de novembre, qui n'est pas sans lien avec celle d'octobre sur les poètes belges, puisque l'auteur dont j'ai choisi de vous entretenir aujourd'hui est belge, lui aussi. Il s'appelle Antoine Wauters et il a 41 ans. Je vous avais dit deux de ses poèmes dans ma dernière émission et je vous recommandais à cette occasion la lecture de son roman, paru aux éditions Verdier en 2021 et intitulé « Mahmoud ou la montée des eaux », prix du Livre Inter cette année. Un roman particulier puisqu'il est écrit en vers libre. Alors, au-delà des étiquettes que l'on se plaît à poser sur les créations littéraires, j'ai eu envie aujourd'hui de vous lire de larges extraits de ce récit poétique qui m'a profondément marqué lorsque je l'ai découvert au début de cette année et que j'ai eu grand plaisir à relire et compulser pour les besoins de cette émission. Quelques indications avant de commencer la lecture. Je vous livre tout simplement celle qui figure sur la quatrième de couverture et nous entendrons ensuite, pour mieux connaître l'auteur, un extrait d'une interview donnée au mois de juillet dernier sur France Culture. Syrie. Un vieil homme rame à bord d'une barque, seul au milieu d'une immense étendue d'eau. En dessous de lui, sa maison d'enfance, engloutie par le lac El Assad, né de la construction du barrage de Tabqa en 1973. Fermant les yeux sur la guerre qui gronde, muni d'un masque et d'un tuba, il plonge. Et c'est sa vie entière qu'il revoit. Ses enfants, au temps où il n'était pas encore parti se battre. Sarah, sa femme folle amoureuse de poésie. La prison, son premier amour, sa soif de liberté.
Je pense que dans tous les livres que j'écris, l'élément de départ, c'est toujours un sentiment d'injustice par rapport à l'enfance, par rapport aux enfants. Quand j'ai vu les images de la guerre syrienne et que je voyais ces enfants totalement déracinés, seuls, dans ces lieux qui sont pour moi très mystérieux et que je connais quand même un petit peu pour avoir pas mal voyagé au Liban et pour m'intéresser à ces régions du monde, ça m'a brisé, ça m'a terriblement fait mal et j'ai commencé à prendre des notes, à essayer de comprendre ce qui s'y passait. Mon objectif, c'était de pouvoir regarder cette réalité qui est très dure, droit dans les yeux, pour essayer de la comprendre. Mon idée n'était pas du tout de faire un livre au début, mais de me permettre d'envisager ce qui se passait là-bas avec lucidité, sans détourner le regard. C'était vraiment ça au début. J'avais le sentiment, en fait, que ce qui se passe en Syrie, on parle de syrianisation du monde. On vit dans un monde qui est très chamboulé, qui est très violenté, où plus rien n'est stable. Et en entendant parler de cette histoire de barrage qui menaçait d'être détruit, je me suis dit, il me semble qu'il y a là quelque chose comme une métaphore de ce qu'on est tous en train de vivre. Et alors j'ai commencé à transformer ce projet en quelque chose de plus romanesque, en tout cas de plus construit.
Antoine Wauters, vous en faites non seulement un roman, mais un roman absolument magnifique et qui a la particularité d'être un roman en vers.
Oui, autant il y a eu un travail de documentation qui était assez colossal avant, autant quand je me suis mis à écrire le livre, ça s'est fait très naturellement, très vite. Je pense, comme le personnage principal du livre, donc Mahmoud, se tient sur une barque pratiquement en permanence, ou quand il n'est pas sur sa barque, il plonge pour essayer de voir son village englouti, dont on reparlera peut-être. Je me suis dit qu'il fallait que le texte lui-même, dans sa forme, fasse écho à cette réalité d'un pays qui tangue, où rien n'est stable, plus rien n'est stable, ni passé, ni présent, ni futur. Et donc je voulais quelque part que le lecteur se trouve un peu comme sur une barque, comme le personnage l'est.
Vous êtes par ailleurs poète, oui. Vous avez publié des recueils, vous avez commencé par là. Et donc est-ce que c'est justement un peu rejoindre vos deux passions, la prose et la poésie, dans ce Mahmoud ou la montée des eaux?
Oui, je crois qu'en fait c'est pas peut-être paradoxal, mais ce que j'ai recherché dans l'écriture de ce livre, c'est le silence. Il me semble que une des choses qui m'anime le plus quand j'écris un livre, c'est d'essayer d'entendre ce qu'il y a au fond des mots. Et ce qu'il y a au fond des mots, très souvent, pour moi, et ce qui me touche, c'est leur silence. Un silence profond et un silence où résonnent énormément de choses qu'on a en commun, nous, humains. Et donc à ce moment-là, les frontières n'existent plus. La souffrance d'un enfant syrien ou celle qu'on peut connaître dans d'autres régions du monde, tout ça est aboli. Et j'avais envie de trouver une parole nue, une parole poétique. J'ai énormément enlevé, en fait, de choses. Le livre était beaucoup plus épais au départ. Mais c'est vrai que cette forme poétique s'est imposée parce qu'il me semble que la souffrance n'est pas bavarde et que Mahmoud, qui a beaucoup perdu dans sa vie, n'est pas là pour séduire qui que ce soit. Il est là pour relater une expérience douloureuse et le faire avec un maximum d'humanité. Et je pense que la parole poétique, elle sert à porter ce genre de message.
Le texte d'Antoine Vauteur, c'est évidemment trop long pour que je vous le fasse entendre dans son intégralité. J'ai donc retenu certains passages et je dois dire que le choix était difficile car en paraphrasant Brassens, on pourrait dire que tout est bon chez lui, il n'y a rien à jeter. Je souhaite seulement que, à travers cet aperçu du livre, vous ayez ensuite envie de le lire en entier. Pour accompagner les mots de Vauters, j'ai choisi un compositeur contemporain auquel j'ai déjà eu plusieurs fois recours dans mes émissions et qui m'a semblé ici tout à fait approprié. Il s'agit du compositeur et joueur de oud tunisien Anouar Brahem. J'ai puisé les morceaux que vous allez entendre dans 4 albums intitulés Timar, paru en 1998, Astrakhan Café, paru en 2001, Le Pas du Chat Noir en 2002 et The Astounding Eyes of Rita en 2009. Chapitre 1. Au début, les premières secondes, je touche toujours mon cœur pour vérifier qu'il bat, car j'ai le sentiment de mourir. J'ajuste mon masque, me tenant à la proue. Je fais des battements de jambes. Le vent souffle fort. Il parle. Je l'écoute parler. Au loin, les champs de pastèques, le toit de la vieille école et les fleurs de safran. L'eau est froide, malgré le soleil. Et le courant chaque jour plus fort. Agrippé à la proue, je vois mon cabanon, une vache qui paît en dessous des arbres, le ciel immense, tout est loin, de plus en plus loin. J'enfile mon tuba, je fixe ma lampe frontale afin qu'elle ne bouge pas et je palme lentement pour maintenir mon corps d'aplomb. Je prends ensuite une grande, profonde respiration et tout ce que je connais mais que je fuis, tout ce que je ne supporte plus mais qui subsiste, tout ce qui nous tombe dessus sans qu'on l'ait jamais demandé, je le quitte. Une sensation exquise, la meilleure. À cet endroit de la descente, je pense à toi, dans notre lit, immobile sans doute, ou sous le prunier, en train de lire les poètes russes que tu aimes tellement, Mayakovsky, Akhmatova, ton cœur est un buisson de lumière chaque fois que tu lis les poètes russes. Et moi, je n'arrive plus à te dire que je t'aime. Nous avons connu Beyrouth et Damas, Paris, où mes poèmes nous ont menés l'été 87. Nous avons joui l'un de l'autre de nombreuses fois, vécu ensemble sans le moindre tarissement, connu la peur, la faim, l'isolement. Et à l'instant où je te parle, je suis brisée, Sarah, séparée de ma propre vie. Je n'y arrive plus, voilà. Quand on a perdu un enfant ou plusieurs enfants ou un frère ou n'importe qui comptant follement pour nous, alors on ne peut plus avoir un buisson de lumière dans le cœur. On ne peut plus avoir qu'un ridicule morceau de joie, un fétu minuscule, et on se sent comme moi depuis tout ce temps. Séparé. Détruit. Ma barque semble loin. Le poids de l'eau sur mon cœur, je le sens, comme la masse qui appuie sur la base du barrage, prête à le rompre. Mes poumons sont complètement vides. Avant, je ne pouvais pas descendre aussi bas. J'ai appris. Mais maintenant, je n'ai plus d'air. Remonte, El Machi. Les bras contre le corps, je palme vers la lumière. Le monde, cette beauté détruite par la peur. Champ de pastèques, concombres, lumière et ciel. Mon cabanon est là, planté entre deux pics, 3 mètres au-dessus du niveau de l'eau, bien caché, à l'écart. Extrêmement bien caché. Je m'enroule dans ma chemise jaune, je marche. À quelques kilomètres seulement, il montre le sud, des civils sont tués. Là, il continue de montrer le sud, on coupe des têtes. Et là, il montre l'ouest, c'est le noir et la nuit. D'autres têtes coupées, Sarah, des enfants aux doigts raidis pour toujours. Je sens ton souffle, tu es là. Tu viens de fumer, je le sais, c'est ton secret. Tu as toujours fumé en cachette. Puis tu t'en vas. Et pendant que je pense à nos enfants partis et que le poids de la terre écrase mes tempes, je sens que j'ai besoin d'être seule et de pleurer. Quand sait-on qu'un de nos enfants est mort, Mahmoud ? Quand en a-t-on la certitude ? Tu reviens sur tes pas, tu poses ta main sur moi. Aujourd'hui, dis-tu, j'ai eu l'impression d'accoucher de nazifée. La même douleur, sauf que cette fois, elle rentrait dans mon ventre. Notre fille rentrait en moi. Je caresse ta joue froide en regardant la lune, Sarah. Je ne dis rien. Mon plat de concombre est vide. Le monde entier est vide. Sommeil. Chapitre 4, où il est question du barrage d'Hafez el-Assad et du lac qui a englouti l'enfance de Mahmoud. Un jour, ils sont venus remplir le lac et tous, nous avons vu nos maisons sombrer, les unes après les autres, emportant nos souvenirs. La mosquée, le café Farah, nos arbres et nos jardins, rien n'y a survécu. L'école Baïba fut rasée. Et parce que le malheur voulait qu'elle se trouve un peu au-dessus du niveau des eaux, des habitations et des milliers de familles furent déplacées. Tout est là, mon amour. On était à l'aube des années 70 et notre président, comme à son habitude, avait eu une idée. Les grandes idées de Hafez. Il voulait changer le cours du fleuve, voilà. Il voulait faire quelque chose pour nous, pour nos cultures et notre économie. C'est ce qu'il disait. À chaque discours, il le disait, et les discours n'en finissaient pas. « Mes enfants, disait-il, et il continuait en affirmant qu'il voulait irriguer nos terres et que tout le monde goûte au progrès. C'était ça, sa grande œuvre, la colonne vertébrale et le pilier de la transformation socialiste, construire un barrage immense, le plus grand qu'ait connu le Levant. » Bref, du jour au lendemain, ce barrage fut de tous les discours et le lac artificiel, lui, vint apporter son nom. « Mon lac, disait-il, le lac El-Assad. » Et c'est alors que notre fleuve vit sa vie changée. Car ainsi vont les choses par chez nous. Au besoin, on change la vie des fleuves, on les déplace. Ensuite, on les envoie vers leur nouvelle adresse. Moi, j'étais jeune, je croyais dans les livres, je comprenais la tristesse des fleuves, mais aussi les révolutions voulant asservir la nature pour notre bien, pour le bien de tout le monde, j'y croyais. J'avais foi dans notre regretté président, dont le maître mot était que le fleuve allait intégrer une nouvelle école. Car lui aussi était poète à sa façon. Le fleuve allait quitter son lit pour apprendre à lire, à écrire, ainsi qu'à faire l'amour autrement avec les arbres et les champs. C'était ses mots. 4500 mètres de digue, 60 de haut, des centaines de millions de mètres cubes de retenue. Tout résoudre, disait-il. Ce projet de l'Euphrate allait tout résoudre. Force, travail, prospérité. Comme il en était fier de se rendre maître et possesseur des eaux. Chapitre 5. Cette fois, c'est Sarah, la femme de Mahmoud, qui prend la parole et qui dit comment son homme, celui qui était si fort lorsqu'elle fit sa rencontre, devint tout autre après les années de prison. À l'époque, je n'avais jamais vu autant de force chez quelqu'un. Tu ne reculais devant rien. Un miracle. La liberté n'ayant rien d'un sport national par chez nous. Ailleurs, elle est sur toutes les bouches. Chez nous, elle coule les lèvres de ceux qui en parlent. Car telle fut la devise de nos dirigeants. Nous changer en moutons doublés de pauvres ignares, afin de pouvoir nous manipuler à leur guise, qu'il pleuve ou qu'il vente. Si bien que lorsque l'homme que j'aimais, toi, idiot, oui, a dévié de la route des cases du parti, on l'a jeté en prison. Moi non plus, je n'oublie rien. Quand il en est sorti, la lumière avait déserté son regard, il ne parlait pratiquement plus. Il emmenait les enfants au lac, il les installait sur sa barque. Ensuite, il pique-niquait et chassait les mouettes avec toutes sortes d'armes fabriquées main. Il s'efforçait de rire, et eux aussi riaient, ne se doutant pas un seul instant du gouffre que cache parfois le rire d'un père, de ses envies de se défenestrer, de sa rage. Les coups qu'il se donnait pour punir et bannir la violence que la prison avait semée en lui, l'abrutir. Sa façon d'âner sitôt qu'il montait à l'échelle pour cueillir les fruits du prunier. Les nuits où je le retrouvais en larmes, fixant son stylo comme le dernier ami à qui il pouvait se confier. J'ai eu peur de cet homme, Mahmoud. Et pourtant, lui aussi je l'ai aimé follement. À présent, c'est un vieux sage. Elle m'achit, on le dit fou, mais je l'aime encore, car je le reconnais. Rien n'a changé. Pour l'heure, je marche à ses côtés dans les vieilles rues d'Alep. Sa main chaude sous la mienne et ses grosses lunettes de soleil que je n'aime pas et n'ai jamais aimées, sombres comme les yeux des morts. Je suis place Saint-Sulpice et le regarde signer ses livres pour ses fiers Parisiens massés tout contre lui. Il rit, il parle aux Parisiens de nos trois jeunes et beaux enfants, Brahim, Salim et Nazifé. Il dit leurs noms. Il les répète en continu et me viennent des buissons de lumière partout dans la poitrine. Puis il me fixe et me présente à eux. Ma femme, Sarah. Il me présente à eux qui ne comprennent qu'à moitié ce qu'il raconte. Il leur lit un de mes poèmes, oui, à moi, femme du poète El Machi, où je dis que les mots sont la main visible du silence, la forme qu'il revêt pour être compris de nous. « C'est elle qu'il faudrait lire, dit-il. Sarah, à nouveau mon nom. Et soudain, le siècle brille. Je le regarde. C'est lui. Il entasse des pierres sur la plage et je lui parle. Je n'arrête pas de lui parler. « Amour, dis-je. rentre avant la tombée du jour. Chapitre 6. C'est à nouveau Mahmoud qui parle et qui mentionne au début de l'extrait le nom de Leïla. Leïla, c'est sa première femme qui est morte, ainsi que la petite fille qu'elle portait dans son ventre. Tout est calme. Je retourne sous l'eau, descends vers le café Farah dont il ne reste rien. Qui sait si ce que je vois, un autre le verrait. Je suis dans la mémoire des choses. Au commencement de tout. Ce n'est pas moi qui observe le lac, mais lui, lui qui fixe la surface du monde, ses plantes, ses arbres fruitiers et les fourmis des sables. Mon visage raviné. Il écoute aux portes de nos vies, il comprend. Moi, je ne comprends pas ce qu'il murmure, mais je sais, il témoigne. J'ai écrit des livres, été invité dans différents pays où je me suis surpris à faire le pan, j'ai perdu Leïla et notre petite fille, et malgré ça, je suis infoutu de décrypter les paroles d'un lac. Triste monde humain. Nageant, je redeviens l'enfant, Mahmoud des prairies. J'entends Mounir hurler sur moi qui suit le vent parmi les bêtes de son troupeau et qui les sème sur le sentier. Je sens le parfum de maman qui est une force virevoltante, un vrai buisson ardent, mais dont les nerfs aussi sont brûlants et ardents. Je cueille une pêche près de papa, debout sur l'échelle, qui cueille des fruits chez notre autre voisin, Ramsier. Vieillir, c'est devenir l'enfant que plus personne ne voit, l'enfant dont on dit qu'il a les cheveux gris, dont on attend des choses, promesses, gloire et accomplissement, alors que tout ce qu'il souhaite, c'est rester à jouer avec son bâton en regardant tomber la pluie, les mains couvertes de boue. Vierge de paroles et de tout clinquant. Je suis vieux, Sarah de mon cœur, parce que j'ai 7 ans tous les jours, depuis 7 décennies, mais personne ne le voit. J'ai 8 ans. Le carré de la façade brille au soleil, surmonté d'un triangle de bois mangé par la vigne. La porte est ouverte, les fenêtres aussi. Maman plie le linge. Elle chante, mais ses doigts la démangent à chaque fois qu'elle plie le linge. Alors elle ne chante plus. Papa, lui, fait du rangement. Il installe les livres de poésie sur le seuil au soleil. Je n'aime pas la poésie, mais quand il la lit, la maison chante. Tout se met à danser. Moi, ma tête gonfle. Ne lis plus, papa. Continue, s'il te plaît. Maman sourit. Elle pense aux pâtisseries de tante Anaïta qui nous attendent dans le jardin et dont elle dit toujours que je peux les sucrer à volonté. Sucrer les choses à volonté. J'aime bien quand elle dit ça. Tout est là. Moi, assis sur la margelle de pierre à l'entrée du couloir, je respire l'odeur de la maison. La même qu'hier, la même qu'au premier jour. Une odeur comme une vague composée de centaines de milliers d'autres vagues, centaines et milliers d'autres odeurs nécessaires pour former ce parfum unique, le parfum d'une maison. Des odeurs d'anis, de fiente fraîche collée aux légendaires babouches de papa, de cette drôle de poudre à lessiver, de cette façon précise de cuire le riz dans telle casserole plutôt que dans telle autre, de comment maman avait l'habitude de laisser sécher les dattes sous la pendule à coucou de grand-père avant de monter et tendre les fleurs de sa robe de nuit sur le sommier, de tous les mots qu'ils y ont prononcés et de comment ils le firent, de la douceur immense de papa et du temps de cuisson des poulets de Ramsier, de leur marque de dentifrice, la même toutes ces années, des centaines de milliers de repas pris à cette table, toujours éternellement parée de petits carreaux dorés, de l'odeur du chandail de tante Anaïta, soi-disant incapable de ronfler, mais qui ronflait comme nul autre en ce monde, des tremblements inquiétants et des roulements de tambour de nos nuits, de l'arrac, de la menthe, du courage, de la peur. Je suis de l'autre côté, dans le monde du souvenir. Je ne vais pas remonter, Sarah. Je vais rester encore un peu. Attendre que tu viennes, toi, que tu viennes me chercher. Ensuite, on rentrera chez nous. Une maison d'air, sans tête coupée, sans mort. On dormira et on veillera comme on l'a fait pendant des siècles, avant que tout ne soit changé en ombre. Tu te souviens, comme la vie peut durer des siècles. Je suis de l'autre côté, dans le monde du souvenir. Tout est là et tout est parti. Qui a dit que vieillir, c'est oublier ? J'ai rejoint la mémoire des choses, Sarah. Que dirais-tu que l'on se retrouve ? Que dirais-tu que je m'assoie sous le prunier ? Je divague, pardon. Mais je n'invente rien. Le visage de nos enfants, les jeux et les joies de Nazifé à la belle chevelure, tout est parti et tout est là. C'est une chose curieuse. Je peux les voir sauver la grenouille rousse dans la mare, m'entendre hurler sur eux quand ils n'obéissent pas, et me revoir ici, en train de terminer ce poème où je dis que la vie, c'est être toujours mouillé. Tout est là. Toi aussi. Mais ton corps est dans la maison avec tes livres russes et tes occupations, ta lassitude de moi, qui sait ? Sous l'arbre où je te retrouverai bientôt, est-ce cela, vieillir ? Mieux voir hier qu'aujourd'hui ? Mieux voir jadis que maintenant ? Chercher à oublier, mais voir tout revenir ? Le passé est une bombe. Il explose. Eux, c'est cela qu'ils nomment oubli, qu'ils nomment vieillir. Ils bruinent. tandis que moi, je sens des tas de choses bouger, m'appeler et venir à moi. Elles bougent. Et en même temps, de toutes petites particules mordorées et à peine perceptibles dansent aussi. Mais au-delà, au-delà de ces eaux noires où le passé ressurgit, au-delà de la mémoire, elles dansent, Sarah, dans un lieu où je ne peux ni les atteindre ni les toucher. Et pourtant, quand je pense les avoir perdues et qu'elles me filent entre les doigts, elles reviennent, tourbillonnant derrière mes souvenirs, derrière la mémoire. Je les sens, toute une galaxie de particules insaisissables composées de millions et de millions de moments, lieux, odeurs, douleurs, visages, mots et silences qui ont rempli ma vie. Chapitre 10. Comment taire la douleur ? En sortant de prison, je ne parlais plus. Je pense au suicide depuis un an, avais-je écrit dans le journal de bord que je tenais. Parfois, le suicide me laisse en paix, je suis content, mais d'autres fois, il vient me voir et plus rien d'autre n'existe. Pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai disposé mes médicaments sur la table du salon et le suicide m'a dit de les manger, puis de fermer les yeux, ce que j'ai fait. Après quoi, j'ai écrit une lettre d'adieu et me suis endormie. Depuis, un mois s'est écoulé et je me demande pourquoi le suicide m'a-t-il abandonné alors que je lui tendais les bras. C'est idiot, non ? Mais ce pays est idiot. Il est une publicité pour la mort. J'ai longtemps hésité. Me tenir debout, écrire des livres et me résoudre à les publier, tout me semblait stérile. Même nos enfants ne me retenaient plus. J'avais perdu le sens, la fameuse direction de la vie. Et par-dessus le marché, le monde grouillait de mots. Il était un poème saturé, dégoûtant. Or, c'est à eux, aux mots, ceux que tu te mis à m'écrire au dos des factures d'électricité, ce que j'entendais dans mes rêves et ce que les enfants soufflaient à travers leurs jeux, c'est à eux que je dois ma survie. Je suis là, devant le cabanon. Je fixe les empilements de pierres sur lesquels j'ai disposé les tartines des petits. Eux aussi, il faut qu'ils mangent. Mange, petite nazifée, mange. Je la revois le jour où elle tomba malade. Elle n'était plus exactement une enfant, elle avait dépassé la vingtaine. Mais moi, Mahmoud, je pensais que je ne pouvais pas perdre une autre petite fille. Je ne l'aurais pas supportée. Quant à toi, tu ne dormais plus, car elle avait de la fièvre et ne parvenait plus à avaler la moindre chose. Un filet d'eau, le jus d'une poire, d'un concombre, c'est tout. Maigre, toujours plus maigre, notre nazifée. La vie se retirait d'elle, kilo après kilo. Oui, elle s'en allait. Et puis un soir, tu te souviens, elle s'est redressée et elle a mangé un pain d'orge de chez Maya M. et trois grands bols de fruits. Le lendemain, elle se tenait devant nous avec des yeux qui nous disaient « Mais de quelle maladie parlez-vous? Je suis en parfaite santé, moi. » Ses frères étaient partis. C'était le printemps, ce fameux printemps. Nous voulons la révolution de la vie, paix et démocratie. Quel père refuserait ça? Qui ne voudrait pas de ça pour ses enfants? Ce jour-là, quand elle est descendue avec son sac, son bandeau, sa gourde métallique et le fiel aux yeux, elle nous a dit qu'elle allait se battre, comme ses frères. Et tu sais quoi? J'avais beau ne pas le lui dire, je savais que la maladie qui l'avait frappée allait frapper le pays. Mais qu'est-ce que le vouloir d'un père contre la soif de liberté d'un enfant? Alors, je lui ai dit d'être prudente et que je l'aimais. Puis, nous l'avons accompagnée jusqu'au bus, coupant à travers champs. Par la fenêtre, elle nous a fait au revoir avec le même sourire qu'avant, mais elle me parut vieille, Sarah. Ma fille et son sourire avaient vieilli. Voilà où passe le temps. Puis, j'ai agité mon mouchoir en pensant que la vie est décidément bien courte et vide, une fenêtre donnant sur un mur. De retour chez nous, je me suis allongée contre toi et nous avons allumé la télé. Les jeunes hurlaient « Ton tour arrive, docteur !»« Bachar, ton tour arrive !» Ils n'en pouvaient plus de ce pays. Ils voulaient la révolution et juste la révolution. Quant à moi, à l'instant où je sus que nos pauvres mots ne seraient plus que le silence de nos enfants partis, la nostalgie m'a pris comme une vague. Elle a fondu sur moi et ne m'a plus quittée. Ils avaient rejoint la foule, la liberté que réclamait leur être. Et nous, nous avons éteint la télé, j'ai préparé le repas, nous avons bu, arak, vin, arak. Puis je suis montée au lac réparer le toit du cabanon, plonger et voir ce lieu où ma vie, où est ma vie quelque part, entre ici et ailleurs, Sarah, au milieu, car trop près du réel on meurt et trop loin aussi. Cette nuit-là, j'ai écrit tout ce que je n'avais pas réussi au cours des mois passés, que je m'étais engluée dans la boue, mes errances, quand je ne pouvais plus dire à quand remonter la dernière fois où j'avais ri sans penser à rien qu'être là, ou quand je ne pouvais plus mettre un pied dehors parce que les angoisses me crevaient le cœur et que j'en étais venue à la conclusion que je ne pourrais plus jamais aimer, ou quand, un soir, je m'étais entendu dire qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Chaque jour de plus en plus noir, l'expansion de la douleur pour tout le pays et le vide est aussi une douleur, la plus grande, avais-je écrit. Je ne pouvais pas dormir. Des choses allaient se produire, je les sentais se profiler, tous ces gens sur les places qui criaient leur dégoût, comme ils avaient raison et comme ils avaient tort. Car, avec l'ophtalmologue face à eux, comment s'attendre à de bonnes choses? Quoi qu'ils chantent, cela se retournerait contre eux. Alors, criez, enfants, mais soyez prudents, car le mal court jusque dans son nom. L'ophtalmologue que mentionne Antoine Vauters et dont il a déjà parlé précédemment, c'est Bachar el-Assad, celui à qui s'adressent les jeunes révoltés quand ils scandent dans les rues « Ton tour arrive, docteur ». Une formule qui est lourde de sens puisqu'elle fait référence au slogan qu'un groupe d'adolescents avait apposé sur le mur d'une école, en février 2011, ce qui leur avait valu d'être arrêtés, torturés et qui avait déclenché le soulèvement du printemps. Dans le chapitre 12, il est question d'une scène terrible dont Mahmoud est témoin, puis acteur, aux alentours de son cabanon. Une jeune fille est aux mains d'un tortionnaire de Daesh, un homme abject qui l'a violée et s'apprête vraisemblablement à la tuer. Un homme que Mahmoud va froidement poignarder. Au début du chapitre suivant, la jeune fille évoque ce qui lui est arrivé. Merci, Mahmoud. Puis elle parle. Car même si l'histoire est la même, l'histoire n'en a pas moins besoin d'être contée. Son amoureux s'appelait Elias, Elias de Raqqa. Il voulait lui offrir une vie où elle ne serait ni cloîtrée, ni tenue de s'attacher les services de son père ou les siens lorsque lui prendrait l'envie de sortir de chez elle. Un homme bon, et elle, une femme instruite, Rem d'Alep, Elias de Raqqa. Les sciences économiques, une licence, instruite. Mais comme lui venait de Raqqa, ils se sont installés à Raqqa chez une tante où ils ont connu le bonheur, enfin, pas totalement, mais au moins l'ont-ils entrevu, dit-elle. Ils avaient des projets. Elle souhaitait 3 beaux enfants et lui, Elias de Raqqa, 3 beaux enfants aussi, mais si possible une fille et 2 garçons. Voire 2 garçons et 1 troisième, car c'était un homme bon qui avait une nette préférence pour les petits mâles, comme souvent par ici. Ensuite, elle dit que tout s'est dégradé. Non leur amour, leurs rêves et leurs projets, mais la ville. La ville et ses hommes, qui se mirent à proliférer avec des regards marqués au feu de leur califat. Elle écrase sa cigarette sur le sol et reste là à la regarder s'éteindre, sans parler, sans un mot. Elle tousse, puis reprend. L'histoire reprend, Sarah. La sienne, la tienne. Notre histoire. Avec Elias, il décide de prendre la fuite. Mon amour, ça y est, l'heure est venue, bientôt je rentrerai, je m'allongerai sous le prunier, tout sera calme. Les eaux continueront de monter, mais tout sera calme. L'espace, les vallées, les plaines et les montagnes, nos villes et nos campagnes, plus rien ne sera un lieu pour la douleur, pour le mal et pour l'effarement. Tout sera apaisé, une sensation physique, l'absence de peur. Tu as vu ? Le chien que j'ai soigné est parti en portant avec lui quelques bouloches et flanquant par terre mes bonnes vieilles piles de pierres. Même lui m'a quitté, tu vois. Je suis seule. Demain, je me lèverai avant tout le monde. J'offrirai un brin de jasmin à la rosée et, après avoir fumé, je reconstruirai les piles. Je ferai d'autres tartines et ça ira. Sois confiant, petit père. Tu entends, Sarah ? Il me parle. Tu te soucies trop de nous. J'entends leur voix, la voix de Nazifé. Les vivants se soucient trop de nous, papa. Tout va bien. Quelquefois, cela change. Et c'est la voix des garçons que j'entends. Peu importe les piles qui s'effondrent, papa. Peu importe les temples et les villes englouties. À la fin, tout s'effondre. Ils sont là, mais quand ils disparaissent, je n'ai plus que les mots pour les chercher. Les mots comme des filets à papillons pour nos causes perdues. Une barque à mi-chemin entre les mondes. J'ai écrit. Je me suis allongée sur le miroir des mots, l'eau des mots. J'ai plongé. L'écriture, comme une barque entre mémoire et oubli. chapitre 17, où il est question du sort de Sarah, la femme de Mahmoud. Et c'est elle qui parle. Tout le pays fut pris de secousses, comme une toile d'araignée qui, touchée ici, tremble partout à la fois. Les gens se sont mis à fuir, offrant leur lit et leur maison aux tirs de mortier. Et notre Syrie, nos arbres, Mahmoud, les lieux où nous nous sommes aimés, notre terre, tout a sombré. Du jour au lendemain, ils sont entrés dans les maisons, égorgeant les hommes devant leurs enfants, insérant des rats dans... et forçant des frères à violer leurs sœurs. Les survivants hurlaient, disant que l'armée voulait nous rendre fous et faire gonfler les rangs des rebelles, cela afin de pouvoir nous trucider ensuite allègrement au mépris du droit et des conventions internationales. Mon amour, tu étais parti chercher de l'eau. Pardon. Ils avaient fermé l'alimentation en eau potable. Tu n'écrivais pas. Tu n'étais pas au lac. Pardon. Tu étais de ce côté du jour, avec moi, parti chercher de l'eau avec une petite casserole et ton cruchon. À ton retour, ils avaient défoncé la porte, si bien que tu as fait un pas en avant, balayé la pièce du regard à toute vitesse. Et lorsque tu as vu ma robe laminée, puis les pages déchirées de mes poètes russes, tu t'es mise à genoux, tu es tombée. Plus tard, tu as levé les yeux et tu m'as rejointe. Dans mon poing, chiffonné, la page d'un poème d'Armatova. Elle s'y trouve encore, tu l'y as laissé, mon ange. Car ils n'ont pu nous le prendre. Ils n'ont pu le violer. C'est lorsqu'une espérance expire qu'une chanson de plus s'élève. Tu es resté près de moi toute la nuit, dans ce champ de ruines. Des heures à sangloter, à invectiver le ciel. Le matin, Arman, le voisin, t'a aidé à creuser le trou sous le prunier. Puis, tu as passé ton alliance autour d'une chaîne. Tu as placé la chaîne autour de mon cou et tu as remis de la terre par-dessus le tout. Tu m'as dit au revoir, Mahmoud. Comme un paysage qu'on survole, auquel on dit adieu, et tu n'es plus revenu. Tu n'as plus revu la maison, et moi, j'ai attendu. Chaque nuit, j'ai attendu ta voix et tes histoires de lune, d'eau et de vent. Je n'y pense pas. C'est mieux. Je ne touche pas mon cœur. J'ignore ces mois passés ici. J'ignore la vague qui balayera les rues, détruira les maisons. J'ignore l'étoile qui m'indique le chemin. J'ignore que des oiseaux reviendront peut-être se poser un jour sur le toit de la mosquée, près du café Farah. Dieu et son âme. J'ignore la maison de Mounir et ce qu'il en restera. J'ignore ma barque, mes palmes et mon tuba. Le champ de pastèque que je dévale. Le sentier au mur. Mon âme dévastée tant de fois. J'ignore que je me traîne seule au milieu des ruines, seule comme la solitude de l'eau. J'ignore qu'il ne reste plus la moindre pastèque dans le champ. J'ignore qu'il n'y a plus de champ. C'est mieux. J'ignore que je ne suis plus revenue chez nous. Il ouvre la porte de la maison, mais il n'y a plus de porte et plus de maison. Depuis qu'ils t'ont fait ce qu'ils t'ont fait, Sarah. J'ignore que tu reposes sous ce prunier et que c'est à lui que je m'apprête à dire. Le ciel n'était pas bleu, mon ange. Nos jours furent bleus. Avant de clore cette émission, je voudrais vous lire un article paru dans le journal Le Monde du 22 août dernier. Un texte qui me semble résumer parfaitement la démarche d'Antoine Wauters depuis le choix de son sujet jusqu'aux caractéristiques de son écriture. Antoine Wauters fait de la littérature un art de la remémoration fraternelle, du ressassement libérateur. La langue aurait ce pouvoir-là, rappeler les morts, disperser les meurtriers. À peine ouvert, le livre d'Antoine Wauters, le 12e de cet auteur de 40 ans, on est emporté par l'éclat d'une écriture et par la solidité d'une conviction. Le mal est puissant, mais l'exhiber en détail, l'obliger à être ce qu'il est, c'est déjà lui résister. Centré sur la vulnérabilité d'un homme, ce texte n'en impose donc pas moins une double démonstration de force. D'abord, à l'heure où certains voudraient qu'il faille être noir pour traduire une poète noire, il réaffirme la liberté d'une littérature qui autorise un jeune blanc à se mettre dans la peau d'un vieil arabe. Ensuite, en s'emparant du conflit syrien, qui apparaît de plus en plus comme le laboratoire de tous les négationnismes à venir, Antoine Wauters prouve que la poésie, loin d'évacuer l'actualité dans les nuées, en éclaire le réel, mieux qu'aucune autre forme. Peut-être parce que le tragique se révèle d'autant mieux qu'il est déplacé par les mythes, transfiguré par les images. Peut-être aussi parce qu'au cœur de ces vers se trouve un discours ému. Le héros de Mahmoud ou la montée des eaux désire moins comprendre qu'aimer. Notre monde féroce tolère-t-il encore l'étreinte amoureuse, même rêvée? Telle est la question posée par cette magnifique fiction qui fait d'Antoine Wauters un poète de notre condition humaine. Alors voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je vous engage vraiment à lire ce livre qui est édité, je le rappelle, aux éditions Verdier. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission au jeudi 15 décembre. À bientôt. Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.